La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ces albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Et bienvenue dans cette matinale de 19h. C'est Hugo à l'animation aujourd'hui et je vous promets que je ne parlerai pas de comique de répétition.
T'es chiant.
Merci Diane pour ton amour du comique de répétition.
T'es chiant Hugo.
Ouais, bon, alors je vais peut-être éviter de reparler davantage de comique de répétition.
T'es chiant Hugo.
Oui, bon, c'est bon, on a compris. Cependant Diane, tu as raison sur un point, on se fait chier. Qu'est-ce qu'on s'ennuie sous le capitalisme ? Et une créatrice de contenu faisait d'ailleurs le lien entre notre ennui et les situationships. Le capitalisme ayant tellement besoin d'assécher nos espoirs et nos rêves que l'on se retrouve à mimer l'amour pour ressentir quelques frissons ou avoir quelques anecdotes à se raconter. Et ça nous rend malheureux ! Mais le malheur, il nous occupe. On trompe l'ennui avec de l'amour en trompe-l'œil, mais on n'en sort jamais vraiment. On reste là, sans espoir et sans futur, à se lamenter sur un monde qui part en ruine, dans des vies où règne l'ennui. Matrixé par le néolibéralisme, on reste centré sur nos problèmes sans voir leur cause collective. Plongé dans notre ennui, mais avec une nouvelle situationship. T'avais raison Diane.
C'est très chiant.
Merci. Au sommaire de cette édition, on retrouve Marine à l'interview qui recevra Julien Chavanne, auteur du livre Pilule Noire. Avec Sabrina dans le Zoom, on reçoit Combo pour le Colors Festival. Aux chroniques, on retrouve Patrick au Flash Info, Francesca à la chronique Actu et la fameuse Diane dans la chronique libre. Et de suite, la grande interview.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Comme je le disais il y a un instant, on reçoit Julien Chavanne, interviewé par Marine. Bonjour Marine.
Bonjour Hugo, merci. Bonjour Julien.
Bonjour Marine.
Merci d'être avec nous ce soir dans la matinale de 19h. Donc vous êtes journaliste société, auteur, enseignant. Aujourd'hui, on vous reçoit en toutes ses qualités. Vous collaborez avec Le Monde, Libération, Mediapart. Surtout, vous avez une spécialité bien particulière qui, je pense, n'existait pas dans le journalisme des décennies précédentes, le masculinisme. Donc en 2018, vous découvrez grâce à votre confrère Mathias Chaillot du Néo Magazine le terme « incel ». Et en mars 2026, vous publiez « Pilule noire », un roman glaçant sur la culture incel, une fiction qui mêle éveil militantiste féministe et descente aux enfers dans une sombre branche de la manosphère, l'incel culture. L'historienne Christine Barne définit cette mouvance comme un contre-mouvement centré sur la victimisation des hommes, propageant la haine des femmes. Est-ce que déjà, pour commencer cette interview, vous partagez cette définition de l'incel culture ?
Oui, bien sûr, c'est ça. La culture incel, la mouvance incel, comme tu l'as dit un peu plus tôt, c'est une sorte de noyau sombre au sein de la manosphère qui est à la fois complètement intégrée à cette manosphère et qui en même temps a développé ses propres thématiques, ses propres mécaniques idéologiques et ses propres mécaniques de radicalisation surtout. Pour revenir un petit peu à l'histoire de ce roman, effectivement en 2018 je m'occupe d'un magazine qui s'appelle Néon chez Prisma et mon collègue Mathias Chaillot, que je salue au passage, écrit un article passionnant sur le terrorisme misogyne en réaction à l'attaque à la voiture Bélier qui vient d'avoir lieu dans les rues de Toronto, perpétré par un homme qui s'appelle Alec Minassian et qui a foncé sur un trottoir avec un van et qui a tué 11 personnes dont 9 femmes. Et il visait spécifiquement des femmes. Et juste avant son passage à l'acte, il écrit sur son profil Facebook « La rébellion des incels a déjà commencé ». Et il fait une sorte d'hommage au suprême gentleman Elliot Rodger. Voilà, il dit salutations, il dit même précisément hail au suprême gentleman Elliot Rodger. Donc on voit déjà un peu la filiation suprémaciste dans laquelle il s'inscrit. Et quand on fait cet article-là, le mot incel, donc c'est en 2018, le mot incel en France, il est très très peu connu, il sort pas du tout des sphères militantes. Et moi, ce message-là m'intrigue. Et je me demande, mais qu'est-ce que c'est que ce truc des incels et qui est cet Elliot Rodger. Et puis, un peu plus tard, je décide de commencer à creuser la question, de commencer à enquêter. Et ce que je découvre me donne envie de faire d'abord une enquête journalistique qui va être publiée dans Mediapart. Et ensuite, pour aller un peu plus loin, pour raconter un peu plus ce que j'ai ressenti, ce que j'ai découvert, et surtout le fait que, au fil de mes recherches, j'ai un pressentiment de plus en plus fort qui est que cette culture incel ou cette sous-culture incel, elle va finir par arriver en France et elle va finir par faire dans notre pays comme dans tant d'autres pays des dégâts. Je me dis qu'il faut aller plus loin et je décide d'emprunter le chemin de la fiction, ce qui va donner ce roman Pilule Noire qui vient de sortir.
D'accord. Et pourquoi ce titre Pilule Noire? Il me semble qu'il y a un passage dans le livre où Vincent, donc que l'on suit tout le long du roman, il dit à un ami, je sais pas si on peut appeler ça un ami, mais avec quelqu'un avec qui il parle sur un forum d'incel, il dit: normal, t'as pris la pilule noire, tu ne verras plus jamais les choses de la même manière. Donc ça, c'est signé Dark Vincel, qui est donc le pseudonyme.
Son pseudo.
Ouais, c'est le pseudo de Vincent.
Son dark pseudo.
Son dark pseudo. Et donc, quel est le rapport entre incel culture et pilule noire? Parce que si on n'est pas un peu initié à ce sujet, on se dit qu'est-ce que c'est?
Alors déjà, faut expliquer que ce qui est assez troublant et fascinant, faut bien le dire, c'est qu'ils ont construit au fil du temps, au fil des années. Le terme est apparu à la fin des années 90, et pour la petite anecdote, il a été inventé par une femme, une Canadienne qui s'appelle Alana. On n'a pas son nom de famille, mais qui elle habite à Toronto, il me semble. Elle a la vingtaine, elle est en train de faire ses études. Elle souffre de sa solitude et elle met en ligne un forum sur lequel elle raconte, elle partage son expérience du célibat, ses difficultés. C'est un forum ouvert. Au départ, le mot qu'elle utilise, c'est invel d'ailleurs. Puis finalement, quelqu'un du forum lui soumettra ce terme d'incel. Et puis en fait, sa communauté va muter assez rapidement et de plus en plus d'hommes en colère, frustrés, de plus en plus misogynes, vont arriver sur son espace et puis vont créer eux-mêmes leurs propres espaces, et assez rapidement le terme va lui échapper. Elle dira un peu plus tard d'ailleurs, c'est comme si je me sens comme le physicien qui a découvert la fission nucléaire et qui découvre que c'est utilisé comme une arme de guerre, quand elle va comprendre en fait que ce terme d'incel sert de bannière en quelque sorte à des hommes qui parfois se rendent coupables d'actes terroristes. Et donc, ils ont produit au fil du temps, au fil des années, tout un tas de textes, tout un tas de concepts qui relèvent essentiellement de la pseudo-science d'ailleurs, qui sont très complotistes, très conspirationnistes, tout un tas de concepts qui viennent expliquer leurs conditions en fait. Voilà, ils se parent d'atours pseudo-scientifiques. Ils ont un Wikipédia dédié, qui est dédié au forum que j'ai infiltré.
Il y a un vocabulaire aussi.
Il y a un lexique, il y a un code vraiment, un code de langage qui fait que toute cette sous-culture est assez opaque quand on entre dedans pour la première fois, quand on la découvre, et que l'enjeu, le jeu pour ceux qui tombent dans ces espaces, c'est justement d'en découvrir les codes pour être un incel conséquent. Et au cœur de cette idéologie, il y a effectivement le concept de la black pill, de la pilule noire. Prendre la pilule noire, en gros, c'est renoncer. La pilule noire, c'est la pilule du renoncement, c'est accepter sa condition d'incel, parce que eux, ils considèrent que c'est juste une condition être incel, alors que évidemment, ça a tous les atours d'une idéologie et presque d'un culte. On en parlera peut-être après. Et donc, prendre la pilule noire, c'est renoncer totalement. Alors, on a un historique hein, de la pilule noire, du moment où apparaît le terme, c'est sur un blog d'un Américain antiféministe, misogyne, etc. Plusieurs figures du mouvement incel, ou qui sont des références dans la culture incel, commencent à employer ce terme de la pilule noire et dire il faut qu'on commence à accepter de prendre la pilule noire pour renoncer le fait qu'il n'y aura jamais d'amélioration à notre condition, que nous sommes tout en bas de cette échelle, parce qu'ils se classent selon une échelle de 0 à 10. On est tout en bas de cette échelle, c'est dû à notre génétique, ils ont une fascination pour la génétique.
On va le voir, c'est aussi très lié au physique, ouais. Comment ils se perçoivent dans leur miroir.
Oui, exactement. Oui, c'est vraiment une hiérarchisation de l'humanité, avant tout basée sur le physique et sur la capacité des hommes à séduire les femmes ou avoir accès au corps des femmes, plus précisément, parce qu'ils ont une perception des femmes qui est... Ils les objectifient, ils les... Il les déshumanise en quelque sorte, enfin, totalement, c'est totalement ça, il les appelle des fémoïdes sur le forum. Et donc finalement, un homme n'a de valeur que dans sa capacité à avoir accès au corps des femmes. Et donc ils ont une échelle de 0 à 10 pour les hommes comme pour les femmes.
L'échelle des déciles.
L'échelle des déciles,
c'est
ouais.
Ça.
Et donc à 10, tu es un Tchad. Donc ça veut dire que t'es un beau gosse, que t'as un statut social élevé, t'es musclé, t'as une mâchoire carrée, ils ont une fascination aussi un peu délirante sur les mâchoires. C'est un peu ce que fait, il y a un influenceur masculiniste qui fait beaucoup parler de lui en ce moment qui s'appelle Clavicular et qui se fracassait la mâchoire à coups de marteau,
coup de marteau
voilà,
ouais,
pour essayer d'avoir une mâchoire carrée. On voit bien que ces univers de toute façon sont tout à fait liés. Et donc comme eux ne sont pas des tchads, ils sont pas à 10, ils sont entre 0 et 3, c'est ce qu'ils se disent, ils disent qu'ils ont une note entre 0 et 3. Là où végètent les incels et ils sont condamnés à cette position subalterne au sein de cette hiérarchie des hommes.
Ils n'essayent pas forcément d'en sortir aussi.
Non, quand ils sont sur ces espaces-là, et justement précisément quand ils prennent la pilule noire, ils considèrent que c'est terminé, qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a plus rien à faire. Ce qu'on constate, ce que les études et les chercheurs disent, c'est que ce sont souvent des déçus de la manosphère plus mainstream, entre guillemets. Hein. Je mets des grosses guillemets. Mais voilà, les gens qui suivent Andrew Tate, qui suivent des pick-up artistes, des coachs en séduction, toute cette manosphère qui a explosé ces dernières années, souvent ce sont des jeunes hommes, la plupart du temps des jeunes hommes, mais pas toujours, qui ont voilà, essayé de suivre des coachings de séduction, de prendre des cours de drague de rue, de soulever de la fonte et de prendre des protes. Et finalement, ils se rendent compte que ça change rien. Oui, effectivement, ça va pas suffire. Et puis surtout, ils prennent le problème complètement à l'envers, puisque leur problématique principale, c'est avec la masculinité qu'ils ont un souci. Et donc voilà, prendre la pilule noire, c'est renoncer. Accepter la fatalité de sa situation. Et donc on voit bien ce que ça peut provoquer, ce renoncement. C'est vraiment à partir du moment où on a renoncé à tout, tout est possible, et notamment se supprimer. Le sujet du suicide est ultra présent dans les espaces incel et particulièrement sur le forum que j'ai infiltré, c'est incel.is, hein, c'est très facile d'aller dessus.
C'est un forum français ?
Non, c'est un forum américain à la base. En fait, à la base, c'était un sous-reddit. Voilà, c'était un subreddit qui s'appelait Forever Alone, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, ils ont été virés de Reddit et ils ont créé le forum en 2017. Et le forum, aujourd'hui, j'ai regardé il n'y a pas si longtemps encore, il y a près de 40 000 membres aujourd'hui dans le monde entier.
Oui, c'est ça. J'allais demander quelle est la part, en fait, de cette culture. Est-ce qu'on peut se dire que c'est complètement fantasque, qu'en fait, c'est peut-être trois hommes. En fait, est-ce qu'ils sont beaucoup ? Est-ce qu'on peut les mesurer, tous ces jeunes hommes ?
Parce que
la plupart, on dit que c'est entre 14 et 25 ans, si je ne me trompe pas, l'échelle de ces jeunes hommes.
Sur les espaces incel, c'est plutôt des hommes assez jeunes, mais on peut quand même rencontrer. Moi, j'ai rencontré des hommes qui avaient une quarantaine d'années. Dans les tueurs incel considérés comme des saints, il y a des hommes plus âgés. Ils les considèrent comme des saints. Voilà, ils les canonisent d'une certaine manière. Mais sur les espaces incel, c'est plutôt des hommes assez jeunes. 14 ans, ça me semble très jeune.
Okay.
La moyenne d'âge sur le forum sur lequel j'ai travaillé, particulièrement, c'est 24 ans.
24 ans, d'accord.
Alors il y a des recherches, je crois, en 2022, il y a eu une étude américaine qui disait qu'il y avait à peu près 100 000 hommes, quand même, dans le monde entier, qui adhéraient à l'idéologie incel. En réalité, c'est effectivement très difficile de les compter, déjà parce que pour la plupart des hommes, et c'est heureux, c'est un passage, c'est un moment dans leur vie. C'est un moment entre l'âge adulte et la fin de l'adolescence, avec des études un peu compliquées, des situations familiales aussi un peu complexes. Des mecs qui se perdent et qui vont tout d'un coup avoir le sentiment que ça va leur apporter. Ils trouvent une communauté émotionnelle, mais ça correspond à un moment. Et puis, ils finissent par s'ouvrir, la vie les emporte. Avec un peu de chance, ils rencontrent quelqu'un. Et puis voilà, ils quittent les espaces incels. Ça, je pense que pour quand même une proportion assez importante, c'est ce que ça produit chez eux. C'est un passage. Mais il y en a qui restent longtemps et chez qui ça va accélérer un processus d'isolement et de radicalisation. Et ensuite, pour te répondre, oui, on peut considérer que c'est assez peu de monde. Là, sur le forum principal, 40 000 dans le monde entier, c'est peu de monde. Donner un chiffre de Français qui sont sensibles à cette idéologie-là aussi, ça paraît hyper complexe. Mais en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup, beaucoup d'hommes sur ces forums-là pour que ça produise déjà des dégâts.
D'accord. Et est-ce qu'on peut dresser un portrait
Un
portrait robot. Qui sont ces incels ? Est-ce qu'ils ont des liens entre eux, des parcours familiaux qui se ressemblent ? Est-ce qu'ils ont des physiques qui se ressemblent ? Est-ce qu'ils ont des idéologies qui se ressemblent ?
L'idéologie, oui, déjà une misogynie radicale. Il y a quand même un substrat de suprémacisme blanc très très fort, même si on peut trouver des personnes noires, asiatiques, etc., et qui sont dans tous les pays du monde. Il y a un racisme intériorisé qui est très très fort aussi. L'âge moyen, je te l'ai dit, c'est 24 ans, en tout cas pour le forum sur lequel j'ai bossé. Les chercheurs qui se sont posés là-dessus, et moi, ce que j'ai constaté avec mes échanges avec eux, c'est qu'il y a effectivement quelques patterns, on retrouve quelques similitudes dans leur biographie. Alors le physique, je pense pas du tout, parce que en fait, pour la plupart, pour ceux qui osent poster leurs photos ou pour ceux qui finissent par commettre une attaque et dont le visage sort dans la presse, bon, ils ont des physiques tout à fait lambda. Il y en a même certains qui sont assez beaux. Elliot Rodger, par exemple, qui est le fameux Supreme Gentleman et qui est leur icône absolue, c'était un assez beau mec. Donc le physique, non, c'est pas une clé, puisque c'est avant tout de la dysmorphophobie, c'est la manière dont ils se regardent eux-mêmes et la manière dont ils se regardent selon les canons de la masculinité à laquelle ils pensent devoir adhérer. Mais les chercheurs retrouvent par exemple beaucoup de harcèlement scolaire dans leur biographie. Ça, c'est quasiment un point commun pour tous et c'est ce que j'ai aussi constaté. Les situations familiales, elles sont pas forcément désastreuses, mais il y a souvent des ruptures, des difficultés de communication avec les parents. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont l'impression de pas exister, de pas avoir de vraie identité, de pas avoir de prise au monde. Et puis il y a beaucoup d'états dépressifs, d'anxiété, troubles du comportement paranoïaque. Donc il y a un énorme sujet de santé mentale. Et l'isolement dans lequel ils vivent, par contre, est tout à fait réel. Hein. Ça, c'est documenté. Ce sont des jeunes hommes isolés, voire très isolés.
Merci Julien. Je suis désolé, je vous coupe dans votre échange. Vous restez avec nous, mais de suite, c'est la pause musicale avec That Girl de Borderline. C'était That Girl de Borderline sur Radio Campus. Et on est toujours avec Julien Chavannes pour son livre Pilule Noire. Et on attend la vidéo.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et Julien, moi j'avais une petite question pour cette deuxième partie. T'as parlé de Clavicula, un influenceur incel, et moi j'avais entendu parler
Alors attention, il n'est pas incel Clavicula, c'est un masculiniste.
Ah oui, non,
les incels, c'est vraiment une sphère précise au sein de la manosphère.
Et en ce moment, justement, on entend parler de look maxing, et je crois que ça fait justement partie de cette sphère incel. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Le look maxing, c'est vraiment plus large que les incels. C'est vraiment cette idée qu'il faut développer son physique, quels que soient les moyens utilisés. Donc effectivement, clavicular, la méthode la plus connue, c'est le fait d'essayer de se casser les os de la mâchoire pour avoir une mâchoire encore plus anguleuse. Mais il y a des espèces d'outils de musculation de la mâchoire. Il y a évidemment toute la culture de la musculation, le fait de prendre des compléments alimentaires, etc. L'idée, c'est de se développer, de faire son corps un objet, presque un produit, avec une logique de développement personnel qui est encore une fois très liée à l'époque. Les sites, les forums de LooksMaxing, ils sont assez anciens, hein, c'est pas du tout un phénomène nouveau. Et le forum que j'ai infiltré, incel.is, il est très lié au forum historique de LooksMaxing qui s'appelle looksmaxing.net ou un truc comme ça, enfin faudra vérifier. Et c'est des espaces qui sont aussi très liés au forum de pick-up artistes. Les pick-up artistes, c'est les dragueurs de rue, les coachs en séduction, etc. Et Elliot Rodger, encore une fois, qui lui ne s'est pas revendiqué comme incel, parce que son attaque c'était en 2014, donc c'est antérieur à l'explosion du terme incel. Mais lui, il était à fond sur les forums de séduction en ligne, de LooksMaxing aussi, il me semble. Donc voilà, tout ça est lié. Et le lien qu'on peut faire avec le monde incel, les incels, ils ont renoncé, mais avant de renoncer, ils ont complètement adhéré à cette idée qu'il suffirait en fait de faire des pompes, d'avoir les attributs de la masculinité hégémonique, une masculinité très virile, très spectaculaire, pour avoir accès à une vie sentimentale, à une vie amoureuse, avec une réflexion qui est très autocentrée, très solitaire. Il y a vraiment cette idée que tu peux faire les choses seul, de ton côté, dans ta chambre, devant ton ordinateur, pour t'améliorer, pour t'augmenter et être plus performant. Il y a aussi cette logique de performance qui en fait les enferme encore davantage, encore une fois, et est assez autodestructrice, surtout quand on n'a pas l'impression d'atteindre les objectifs qu'on se fixe, qui sont souvent des objectifs de façon complètement délirants. Quand on en revient à se fracasser la mâchoire avec le marteau, c'est que de toute façon, dans la stratégie, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi.
Oui, il y a quelque chose qui ne va pas, ça c'est sûr. Et pour revenir sur votre livre, Vincent, donc, qui est le deuxième personnage principal, est-ce qu'il y a une issue à sa condition ?
Ça, faut lire le livre, je ne vais pas dire la fin.
Pas de spoil. Mais on va dire que dans la culture incel, tout à l'heure vous l'avez évoqué, la plupart en sortent de cette idéologie très radicale. Est-ce que factuellement, c'est possible facilement de sortir de cette idéologie ?
Alors, facilement, j'en suis pas convaincu. Il y a vraiment
Pour redire, il y a quand même un état dépressif presque suicidaire chez la plupart. Ils parlent de suicide énormément dans les forums. Oui. Le mot suicide en fait est constamment là.
Oui.
Et la plupart, c'est un peu presque l'aboutissement un peu.
Là, c'est difficile d'avoir des stats, mais ça pousse vers le pire de toute façon. Et il y a une logique d'embrigadement qui est assez proche de la secte. C'est quand même un peu comme un culte. On a parlé des icônes, des saints, etc., d'un langage, de quelque chose d'un peu cryptique qui entraîne vers toujours plus de profondeur. Et puis surtout, il y a une espèce de... Quand on est sur ces espaces, ils s'habituent au déversement d'idées toujours plus sombres, toujours plus violentes. Vraiment, c'est un espace où il y a l'apologie du viol, du meurtre, du féminicide, du cyberharcèlement, enfin du nazisme, de tout ce qu'il y a de pire en fait. C'est vraiment, on finit par... Il y a un nihilisme délirant et c'est vraiment un endroit où on est confronté au pire. Et ce pire crée une désensibilisation finalement, une perte d'empathie qui est là pour le coup documentée dans d'autres phénomènes de radicalisation. Et donc je pense que si on s'y expose trop en étant premier degré, en adhérant vraiment à cette idée, ça peut faire que du mal. ça peut faire que du mal. Ce qu'il faut espérer, c'est que le monde extérieur, soit plus fort pour ces jeunes hommes-là et finit par les rattraper, finit par créer des choses qui vont leur redonner de l'espoir, une ouverture vers le monde, etc. Il y a un truc un peu marrant, enfin, je ne sais pas si c'est le terme qu'on peut employer, mais quand un incel a une relation amoureuse ou sexuelle, les autres membres considèrent qu'il fait une ascension. Voilà, il fait une ascension.
Il monte dans l'échelle des déciles, voilà. Petit à petit,
il monte
jusqu'à devenir un tchad, finalement.
Exactement, c'est ça. Il monte dans la hiérarchie des hommes, et si on le prenait premier degré, on pourrait penser qu'il y a quelque chose de religieux, comme une sorte de révélation, d'accès à un monde merveilleux, un paradis qui serait un paradis, du coup, peut-être féminin, mais pas du tout. C'est une ascension au sein du monde des hommes. On en reste toujours à cette idée de grimper dans la hiérarchie de la masculinité. Donc l'issue, hélas, elle est, je pense, pas très heureuse pour les plus fragiles d'entre eux, pour les plus exposés, pour ceux dont l'isolement est déjà un peu avancé, ça va ne faire que l'aggraver.
D'accord, et donc on a l'impression que c'est, comme vous le disiez, presque un peu, ils sont seuls dans leur côté un peu du dark web sur digital. Mais il faut bien comprendre que l'incel culture, ça tue. Il y a beaucoup de femmes qui sont mortes à cause de ça, il y a eu des attentats. Vous l'avez cité tout à l'heure, Elliot Roger, qui a tué... Il me semble
6 personnes.
Il y en a d'autres. Il y a Mark Lépine, Jake Davinson. Voilà, tous ces saints, comme vous l'avez dit, ils ont tué et ils sont passés à l'acte. Est-ce que les autorités américaines, d'abord, chez les Canadiennes, est-ce que les autorités françaises aussi en sont conscientes de ce danger-là, de ce terrorisme misogyne?
Bah, les Canadiens et les Américains, évidemment, sont très en avance sur le sujet, puisqu'il y a eu les premières attaques. La première attaque, l'attaque historique, qui n'est pas une attaque incel, puisque le terme n'existait pas encore, c'est effectivement Mark Lépine avec l'école polytechnique en 1989. Mais c'est la problématique du terrorisme misogyne qui est plus large que le phénomène incel. Les Canadiens ont mis un peu de temps à reconnaître, à utiliser cette appellation du terrorisme misogyne et à reconnaître qu'il y avait un caractère misogyne dans l'attaque de Mark Lépine, alors qu'il avait une lettre de revendication très claire. Il a, juste avant de tirer sur les étudiants dans la première salle de classe dans laquelle il est entré, il leur a dit « Vous êtes des féministes et donc je vais vous tuer à ce titre-là.
» Donc il y a une volonté de tuer des femmes parce qu'elles sont femmes.
Exactement, bien sûr. Et de créer un acte de terreur. Voilà, de créer de la terreur chez les femmes pour les soumettre. C'est aussi simple que ça. Donc le Canada et les États-Unis ont mis un peu de temps, mais aujourd'hui, cette notion du terrorisme misogyne, elle est très ancrée. Dans le système judiciaire, le Canada vient de condamner pour la première fois un homme qui a attaqué un salon de massage à Toronto en 2020, j'espère ne pas me tromper dans la date. Mais Alec Minassian, par exemple, il n'a pas été condamné pour terrorisme misogyne, si je ne dis pas de bêtises. Donc les États-Unis, le Canada et l'Angleterre sont très avancés là-dessus, et notamment au niveau des systèmes de surveillance. Et la France vient de lancer sa toute première procédure pour terrorisme misogyne. Un jeune homme qui a été arrêté l'été dernier à Saint-Étienne, près de son lycée, avec deux couteaux. Il envisageait de s'en prendre à des femmes. Il était complètement dans l'idéologie dont on parle depuis le début, idéologie incel, fan d'Eliot Roger, complètement radicalisé. Voilà, donc c'est la première procédure pour terrorisme misogyne en France, dans notre pays, ça vient d'arriver. Moi, quand je commence à me préoccuper de ce sujet, il n'y a pas eu, à ma connaissance en tout cas, d'arrestation d'incel en France. Il y a eu des arrestations du côté de l'ultra-droite avec des mecs qui s'approchent un peu d'un profil d'incel dont on comprend bien qu'ils ont intégré des concepts extrêmement misogynes, etc. Mais il n'y a pas encore eu d'arrestation. Et là, maintenant, on est vraiment à plusieurs arrestations. Et donc, cette dernière qui a donné lieu à cette procédure pour terrorisme misogyne.
De Timothy J.
C'est
bien ça.
Désolé, je vais devoir vous couper dans votre échange. On approche de la fin de cette interview.
Mais tu fais bien, Hugo. Et merci.
Juste une petite dernière question pour un peu rapidement. Est-ce que tu as des actualités qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, Julien ?
Oui, bien sûr. J'ai des articles je travaille beaucoup pour Le Monde en ce moment. Donc, j'ai un article à paraître là, dans les jours qui viennent sur ce qu'on appelle le Mighty Girl Effect, l'effet fille en fait, comme la manière dont les filles transforment leur père. Voilà, j'ai bossé là-dessus. Et j'ai un autre livre qui sort en septembre sur le MeToo garçon, les violences sexuelles subies par les hommes. Cette fois, c'est de la non-fiction. C'est un livre journalistique, une enquête.
D'accord, voilà, donc qui sort en septembre. Sur Le Monde et le nom de la maison d'édition pour ton prochain livre ?
HarperCollins pour le prochain.
Ok. Merci. Donc ton merci livre Pilule Noire est disponible aux éditions du Plomb, est disponible en librairie.
Tout à fait.
Je te remercie et on passe maintenant au Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Alors, dis-moi Patrick, que se passe-t-il dans le monde ?
Le monde bouge. Bonsoir à tous, on ouvre ce Flash Info avec les étudiants. Depuis aujourd'hui, le repas un héros est généralisé à tous les étudiants dans les restaurants universitaires. Une mesure forte pour répondre à la précarité étudiante. La fréquentation des crousses devrait fortement augmenter dans les tout prochains jours. En France, focus sur les naissances sous X. Ce dispositif permet à une femme d'accoucher dans l'anonymat sans inscrire son identité à l'état civil de l'enfant. Mais ces dernières heures, les débats reviennent sur les droits de l'enfant né sous X, notamment leur accès aux origines. Des associations rappellent que de plus en plus de personnes nées sous X engagent des démarches pour tenter de retrouver leur mère biologique via le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, un sujet sensible entre droit à l'anonymat de la mère et droit aux origines de l'enfant. En culture, en Île-de-France, l'Île-de-France confirme son dynamisme avec une fréquentation en hausse dans les musées, théâtres et festivals. Un printemps marqué par un retour massif du public dans les lieux culturels. On va également enchaîner avec l'international où, bien évidemment, on nous annonce un drame sanitaire en mer. Un navire de croisière actuellement stationné au large du Cap-Vert après la mort de 3 passagers. Les premières analyses évoquent un antivirus, une infection rare transmise par les rongeurs, notamment les rats. Plusieurs autres cas suspects ont été signalés à bord et 3 ressortissants français figurent parmi les passagers. Des mesures sanitaires strictes ont été mises en place. Nous allons terminer avec le sport, bien évidemment. Et dans le sport, on va parler du Paris Saint-Germain qui, il faut le signaler, est en compétition européenne et cette compétition entre dans une phase décisive. Ce PSG, club de la capitale, poursuit sa préparation pour une demi-finale retour décisive. Après un match aller très disputé, les Parisiens se projettent vers une rencontre sous haute tension où la qualification pourrait ouvrir la voie à un possible sacre européen. Entre ambition, pression et confiance, le PSG aborde ce rendez-vous avec confiance et surtout comme étant un tournant majeur pour sa saison. Voilà l'essentiel pour l'actualité de ce lundi et à très bientôt.
Merci Patrick pour ce petit tour de l'actualité. La matinale part en pause musicale avec No More Regrets d'Almost Monday.
Slide a little closer.
C'était No More Regrets d'Almost Monday sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, on continue dans l'actualité avec la chronique actu de Francesca.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donald Trump serait-il en train d'accélérer la transition énergétique sans le savoir et surtout sans le vouloir? Pourquoi je dis ça? Parce que depuis la guerre au Moyen-Orient, les investissements dans les énergies renouvelables progressent. En mars 2026, les exportations solaires chinoises ont atteint un niveau record avec environ 68 gigawatts exportés en un seul mois. Rien que pour les panneaux, on parle d'environ 32 gigawatts avec une hausse de 91%. Les exportations sont tout simplement doublées sous l'effet des tensions énergétiques mondiales. En ce qui concerne l'Europe, elle est en quête de sa souveraineté énergétique. Il faut savoir que l'Union européenne importe environ 50 à 60% de son énergie. Depuis les crises récentes, c'est le grand virage. L'Europe veut clairement changer ça. L'objectif, c'est désormais produire plus d'énergie sur son sol propre, moins dépendre des importations instables et accélérer sur les renouvelables, le nucléaire dans certains pays comme la France, pour plus d'efficacité énergétique. Quant à la France, le mois dernier, le Premier ministre Sébastien Lecornu a partagé son plan d'électrification de l'économie. Il est question de réduire la part des énergies fossiles à moins de 30% en 2035 et permettre qu'en 2030, 2 véhicules neufs sur 3 soient électriques. L'objectif du gouvernement est d'inverser la tendance d'ici 2030, faire passer la consommation d'énergie de 60% de pétrole et de gaz à 60% d'énergie décarbonée. Il a aussi déclaré « Tant que nous dépendrons du pétrole et du gaz, nous continuerons de payer le prix des guerres des autres ». Et enfin, le secteur aérien, à tour de rôle, les compagnies annulent les vols pour économiser du kérosène. À commencer par les compagnies françaises, Transavia France, la filiale Bakou du groupe Air France KLM, a annoncé l'annulation d'environ 400 vols en mai et en juin 2026, soit environ 2% de son programme. La compagnie Lufthansa a déjà supprimé 20 000 vols pour économiser du kérosène. Alors oui, sans le vouloir, Donald Trump est en train de rendre son drill baby drill caduque, car cette guerre qui limite l'accès au pétrole avec le blocage du détroit d'Hormuz, il est en train de booster les énergies vertes. On appelle cela un effet de bord. Nous n'allons pas le féliciter, évidemment que non, car même s'il est nécessaire d'accélérer sur ce sujet, en revanche, pas comme ça. On préférait qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas d'innocents qui meurent. Tant pis si le rythme est plus lent dans la transformation. On aurait de toute façon, à terme, visiblement c'est possible, trouvé des solutions, des alternatives. La transition énergétique ne devrait jamais dépendre des crises et encore moins des conflits de guerre. La guerre ne sera jamais une solution, elle ne sera jamais un modèle, elle ne devra jamais être un moteur. Notre conscience, notre envie d'une planète propre et nos actions en lien devraient suffire.
Merci Francesca pour ta chronique et cette prise de position précieuse. On ne s'arrête pas sur Radio Campus Paris, tout comme l'actualité finalement, car maintenant c'est l'heure du Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Alors bonjour Sabrina.
Bonjour Hugo.
Aujourd'hui on a Combo avec nous, un artiste que tu apprécies il me semble.
Oui, aujourd'hui on a la chance de recevoir Combo, directeur artistique du Colors Festival. Donc on en parle tout de suite avec toi. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter le Colors Festival en quelques mots ?
Bonjour Sabrina. Donc oui, effectivement, on a un festival qui s'appelle le Colors et c'est un lieu un peu spécial dans lequel on peint avec beaucoup d'artistes de manière assez libre. Donc on permet aux artistes de s'exprimer sans leur demander ce qu'ils ont à peindre et le seul lien qu'on fait dans l'exposition, c'est à travers soit de la lumière, on va revenir dessus peut-être tout après, la couleur, et donc c'est pour ça qu'on a appelé le Colors Festival. Notre seul lien entre nous, c'est la couleur, mais les thématiques changent et les artistes seront libres.
D'accord. Et pourquoi avoir choisi le thème de la lumière, justement ?
Alors effectivement, là, on a lancé une nouvelle exposition qui s'appelle Colors Light. On a mis toute l'exposition en lumière noire. Donc la lumière noire, c'est celle que vous voyez qui est un peu bleutée et qui fait sortir toutes les couleurs fluo de manière très vibrante. On a des fois ça en boîte de nuit. Donc je pense que vous devinez à peu près à quoi ça ressemble. Et de leur imposer ça, ça leur rend la tâche difficile, certes, mais ça les oblige à créer d'une manière différente. Et nous, dans l'exposition, ça nous permet de voir les œuvres comme on ne les voit pas d'habitude.
D'accord. Et concrètement, le visiteur, qu'est-ce qu'il découvre en entrant dans cet univers?
Alors là, nous, dans le lieu où on est, donc on est dans le 15e, à Porte de Vanves, dans un bâtiment qui était anciennement un sex shop. Donc, je vous préviens, ils nous ont rien laissé, donc on n'utilise pas les objets. Ne soyez pas...
Donc c'est un lieu abandonné.
C'est un lieu abandonné.
Je suis rassuré, honnêtement.
On n'a rien trouvé de bizarre. Par contre, on a trouvé un lieu qui est magnifique, avec une ambiance très sereine. Et nous, ça nous a permis de ramener beaucoup d'œuvres qu'on a créées à Londres et Manchester. Donc beaucoup d'artistes qui n'ont jamais été vus en France. Et quand on entre, plusieurs choses. La première, évidemment, les œuvres. Mais il y a des jeux, il y a des choses à dessiner, il y a des choses à apprendre. En fait, c'est un lieu où, à l'inverse d'un musée, où on a le droit de toucher. On a le droit de s'amuser, on a le droit de crier. Et ça fait du bien.
Ok. Et est-ce que tu laisses carte blanche à tes artistes que tu sélectionnes?
Toujours, toujours. Alors de moins en moins, parce que j'ai peur qu'ils disent des bêtises avec toute l'actualité qu'on a eue et qu'on a en ce moment. Alors je plaisante, évidemment qu'on les pousse, évidemment qu'on essaye de les encadrer, mais jusqu'à maintenant, on a toujours eu une carte blanche.
D'accord, avec une certaine ligne rouge, tu imposes un thème ou...
Une certaine ligne plutôt couleur noire, couleur bleue, et d'accord. Donc là, la lumière noire.
Ok, d'accord. Et il y a des moments où on peut voir les œuvres en live?
Exactement. Là, on l'a fait pendant toutes les vacances scolaires, donc qui sont arrêtées le 3 mai dernier. D'accord. Et on va le faire pendant tous les jours fériés, les ponts et donc les week-ends. On a un artiste différent qui vient en live, qui peint... Donc soit de 11h à 18h, soit de 10h à 18h, ça dépend. Les artistes, des fois, arrivent un peu en retard. Ce sont des artistes. Et à la fin de la journée, pour ma part, en tant que directeur, j'ai la lourde tâche difficile d'effacer l'œuvre. Donc l'œuvre n'existe plus après. Et le lendemain, on a un artiste qui vient et qui repeint sur ce mur.
C'est des œuvres éphémères, donc?
Complètement. Ça revient un peu sur ce principe de street art, où chacun prend la place de l'autre, sauf que c'est sur un seul mur. Le reste, on le voit de manière quotidienne.
D'accord. Et est-ce que tu définis le Color Festival plutôt comme une exposition ou comme, comment dire, comme un festival? J'arrive pas trop à te mettre dans une case. Peut-être qu'il faut pas te mettre dans une case.
Bah effectivement, je m'appelle Combo, donc j'aime bien mélanger les choses. Et justement, est-ce qu'on est un festival? Est-ce qu'on est une exposition? Est-ce qu'on est un lieu de jeu pour les enfants? Est-ce qu'on est un lieu de rencontre pour les gens? J'arrive pas à le dire, mais en tout cas... On sait que nous, on veut discuter avec les gens, on veut rencontrer les gens, on veut faire que les gens se rencontrent avec les artistes et puissent vraiment dépasser ce simple fait d'avoir différents clichés, différents lieux. Voilà. Après, il faut venir pour voir. Hein.
C'est clair, tu nous donnes envie. Pourquoi ce côté éphémère et est-ce que tu imagines quelque chose de plus permanent à l'avenir?
Alors, nous, on a fait, c'est notre 12e événement en 4 ans. On a fait... 3 fois Paris, on a fait Londres, on a fait Manchester, on a fait Bordeaux, Tours, plein de villes extérieures. Et là, c'est notre retour un peu à Paris depuis 3 ans. On n'avait pas fait d'exposition. C'est le dernier Colors. Je vous l'annonce. Il n'y en aura pas d'autres avant 2-3 ans. Pourquoi ? Parce que le lieu dans lequel on est, on va le transformer en musée. À la rentrée, ça va changer. Et là, on va rentrer dans une nouvelle ère d'exposition. Je vous annonce déjà, hein, parce que c'est on a déjà prévenu tout le monde. Hein.
C'est un scoop.
C'est un scoop, un peu en retard.
D'accord.
Mais la prochaine exposition, ça sera sur l'Amérique latine, avec un focus sur le Brésil et les Caraïbes. Ça, c'est pour tout l'hiver 2026, pardon. Je suis un peu en avance. Et 2027, donc le janvier 2027, ça sera sur le Japon. À chaque fois, on fera des grosses installations, on fera des endroits où on pourra jouer, on pourra découvrir les choses d'une manière où on n'a pas l'habitude de le voir. Des artistes qui sont à chaque fois contraints, mais qui aussi nous obligent, nous, de revoir leur univers d'une manière différente.
Mais dis-moi.
Non, c'est juste, ce festival reviendra plus tard, mais nous, on part sur un musée.
D'accord, c'était ma prochaine question, justement. Oui. Pourquoi ce côté éphémère dès le départ?
Parce que, en fait, faire un musée en France, c'est pas donné à tout le monde. C'est l'État qui le fait, ou les grandes sociétés.
D'accord.
Les grandes sociétés, les milliardaires. Et nous, en tant qu'association, en tant que bénévoles, en tant que personnes qui ont mis leur propre argent, on essaye de faire un musée. Et donc on fait ce côté éphémère avec le Colors, mais derrière on rentre dans un cycle beaucoup plus grand. Et pour autant, on veut toujours avoir des expositions qui soient courtes, mais qui soient impactantes. Donc on ne veut pas lasser les gens, et on va se donner les moyens de faire les choses de manière assez, assez grande.
Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal de passer justement d'un univers très éphémère à un truc plus sur la durée d'un musée, puisque justement c'est pour se rappeler un peu du passé et de
mémoire? Tu as raison, en fait, le musée, c'est qu'un mot marketing. pour nous, ça restera quelque chose d'éphémère. Ça restera un lieu qui va changer tout le temps. C'est juste qu'à un moment donné, le musée n'est pas protégé par la loi française. Et pourquoi nous, jeunes personnes qui n'ont pas les mêmes moyens que l'État, on ne pourrait pas créer un musée? C'est qu'une manière de s'appeler. C'est aussi une manière de mettre un focus sur ces artistes qui sont vivants et qui méritent, eux, d'être au musée. Donc vous ne les verrez pas dans un musée, mais nous, on va s'appeler un musée. Et on va vous faire des choses aussi belles et aussi grandes qu'un musée.
Et qu'est-ce que tu attends, en fait? Quel message tu veux transmettre aux gens qui vont visiter ton musée?
La liberté. La première des choses, c'est ça. Nous, on permet aux artistes d'être libres. Et chaque artiste a des thématiques. Ça peut être effectivement la guerre, ça peut être le vivre ensemble, ça peut être l'écologie. Ça, il y en a beaucoup qui le traitent. Et à chaque fois, chacun va pouvoir se permettre de dire ce qu'il ne fait pas dans une galerie, parce que les galeries ne veulent pas de choses engagées. Et nous, on leur permet de le faire. Et les musées, les vrais musées, eux, ont des thématiques qui sont très précises, qui sont codées, qui sont fléchées par le ministère. Nous, la seule flèche, c'est la liberté.
Ok. Et qu'est-ce que t'aimerais pour la suite, pour toi? J'ai envie de revenir sur ton parcours. Comment, enfin, tu viens du street art, du sud de la France, et comment t'es arrivé, comment t'as commencé à percer?
Alors moi je viens du street art, effectivement, je me suis permis de faire beaucoup de choses assez engagées. Pendant un temps je dessinais un logo qui s'appelait Coexiste avec symbole religieux. J'ai une grande fresque dans Paris où j'ai Tintin et Haddock qui s'embrassent, donc j'ai fait un peu le grand écart sur
non, mais
le sujet.
Je reviens sur Tintin et Haddock, je suis désolé, moi je suis pour ce yaoi entre Tintin et Haddock, mais même l'auteur était pour, je reviens
merci.
Dessus,
merci,
moi je soutiens
d'accord.
cette démarche.
Et bah tu vois exactement. C'est mon principe premier, c'est de vouloir dire des choses qui me semblent réelles, réalistes. Et ça, au départ, quand j'ai voulu faire cette fresque, ça a été compliqué. Maintenant, la ville de Paris en est très contente, et moi aussi, j'en suis très heureux. Et j'ai tendance à dire que la culture, l'art, la manière dont on dit les choses, se diffuse dans la société. Et nous, les artistes, on est parmi les premiers, les fers de lance. Si on dit quelque chose de manière assez répétée, ça devient une réalité. Donc deux hommes qui s'embrassent dans le centre de Paris, c'est quelque chose d'assez normal. Et j'espère que ça serait dans toute la France. Et j'espère qu'on va continuer sur plein de sujets comme ça à travers tous les œuvres des artistes qui vont travailler avec nous.
Et je me permets de revenir parce qu'on a parlé de Marseille. Moi, j'avais vu passer une polémique justement à Marseille sur le street art où il y avait Banksy qui avait fait quelque chose et qui avait été recouvert. Et derrière, la ville, au lieu d'accepter en fait que le street art soit éphémère et qu'on puisse parodier aussi ce qu'on se considère entre guillemets des grands artistes, a décidé de recouvrir d'une plaque de verre l'œuvre de Banksy. Comment tu te positionnes toi par rapport à ça?
Sincèrement, ça dépend à chaque fois de la politique. Comme je l'ai dit, moi, mon œuvre de Tintin, la mairie ne voulait pas le faire. Alors que c'était pas la mairie qui me finançait. Maintenant, ils en font la pub et ils le mettent en avant. Banksy, au départ, lui aussi, était effacé. Maintenant, on le met dans les musées et on va lui mettre une plaque. J'espère que d'autres artistes qui seront encore plus engagés, plus poussés que nous, vont avoir la même direction. Et nous, de notre côté, il faut qu'on les défende un peu plus en amont, tant qu'ils sont jeunes et qu'ils ne sont pas encore vitrifiés, muséifiés, d'une certaine manière, parce que c'est à nous de tendre le relais, en fait.
D'accord, je vois ce que tu veux dire. T'as une dernière question?
Oui, une dernière question. En fait, je reviens sur la dimension ludique que tu proposes. Alors, soit c'est pour se débarrasser des enfants,
c'est
peut-être pour les initier à l'art. Dis-moi un peu plus.
Je pourrais te le prendre de différentes manières. Soit la stratégie McDonald's et on donne des Happy Meal aux gens et ils vont venir au musée plus tard. Par contre, non, en vrai, c'est que je sais que le musée, les enfants ne veulent pas y aller. Les adolescents aussi. Nous, on essaye d'être ce pendant où les gens ont envie de venir nous voir. Et si on arrive à le faire, c'est aussi parce qu'on n'a pas de financement public. C'est important. C'est fait qu'on a obligation à rendre le truc intéressant. Si on arrive à intéresser un enfant et un adolescent et une mamie, franchement, le grand écart, il est pas mal.
Donc là, tu nous garantis, tu nous en mets plein les yeux.
Bah pour l'instant, on n'a pas remboursé qui que ce soit, donc on n'a pas eu de demande.
Donc voilà, un dernier mot pour ne pas rater ton exposition.
Ça dure jusqu'à
26 juillet.
Jusqu'à 26 juillet, mais attention, ça change tous les jours. Donc on a dit les lives. Et après, il n'y aura plus ces œuvres, elles seront effacées. Donc c'est un one shot. Perdez pas de temps, parce qu'on a très tendance à penser que c'est en juillet, donc on ira plus tard. Ça n'arrivera pas. Et plus on s'approche de la fin, plus les créneaux sont complets.
Ah d'accord, c'est par créneau en plus.
Oui, c'est
par merci d'avoir partagé avec nous ce témoignage, Combo.
Est-ce que, avant de finir cette interview, tu peux nous redire où est-ce qu'on peut aller assister au Colors Festival?
Bien sûr. Donc on est boulevard Lefebvre, au 179. Pour y venir, c'est la ligne 13. métro Porte de Vanves ou le tramway. Le tramway, je ne le prends pas, je prends
c'est la ligne 13,
je suis désolé. Mais voilà, c'est au bout de la ligne 13.
Et c'est une très belle idée de sortie.
Oui, voilà. Et est-ce qu'on peut te suivre son actualité sur les réseaux aussi? Tu as un Instagram?
Moi, l'Instagram combo-le-du-bas CK ou sinon Colors Festival. Paris.
Et je demande pour moi, mais l'œuvre de Tintin et Haddock qui s'embrassent, elle est où dans Paris?
Tu sais pas, Hugo.
Non, j'apprends.
Mais elle est en haut de. Elle est au croisement de Sentier. Elle est en haut de Montorgueil, croisement Sentier. Et en fait, c'est le début de la rue des Petits Carreaux.
Eh bien, je vais totalement y aller.
J'espère bien.
Maintenir la propagande pour que ce couple, Tintin et Haddock, devienne réel.
Merci beaucoup.
Merci Combo. La matinale continue encore quelques minutes. Mais pour l'heure, c'est l'heure de la musique. C'était Where It Hurts de Nana Fofi dans la matinale de Radio Campus Paris. Et tout de suite, on retrouve Diane pour une chronique, libératrice.
La matinale de 19h.
Je suis la dernière. J'ai toujours été la dernière. J'ai toujours été la petite dernière. J'ai grandi dans une famille conviviale, joviale, avec des repas du dimanche midi qui n'en finissent pas. J'ai vécu dans une famille qui sait très bien sourire, faire bonne figure et rendre la fête joyeuse quand tout le monde se déteste. J'ai vécu dans une famille cassée, mal réglée, mal construite, mal faite, où sur le papier, avec le beau papier cadeau, tout est beau. Mais en réalité, tout est cassé. À mes 10 ans, mes parents ont divorcé. Ma famille a alors éclaté aux quatre coins de l'Europe. Mon frère est parti à Paris, ma sœur à Bristol et ma dernière sœur à La Rochelle. Je me suis retrouvée seule. Seul au monde, seul face à ce nouveau cadre, si on peut appeler ça un cadre, seul face à moi-même. Alors comment avancer? Je me sentais perdue. Alors pour ne pas sombrer dans les pleurs, je travaillais. Je faisais la bonne élève, la bonne fée. Je suis partie de Tours en juin 2020. Ça, c'était ma première libération. Je ne vivais plus sous le même toit que ma mère, je ne répondais plus à ses règles. J'ai commencé à vivre pleinement et à profiter. J'ai vécu dans le 13e pendant 2 ans, chez l'habitant et puis en coloc. Je n'étais plus chez ma mère, mais j'avais un autre cadre. Un cadre bizarre que je subissais. Alors dès que j'ai pu, j'ai déménagé pour vivre seule. J'ai pris ma véritable indépendance. Sans obligation, sans contrainte, sans règles. Libre de tout, comme de rien. Libre de passer l'aspi ou pas. Libre de rester dans mon lit ou pas. Libre de laisser traîner ma vaisselle ou pas. Et ça, c'était ma deuxième libération. Ne plus dépendre pour vivre simplement. Alors j'étais loin des problèmes, loin des autres, loin de cette famille, loin de tout. J'ai commencé à faire mes propres choix, à vivre pleinement. J'ai commencé une thérapie parce que j'en avais besoin. J'ai changé de boulot parce que je ne me plaisais plus. J'ai commencé à dire les choses. J'ai commencé à vivre pour moi et non plus pour les autres. Et puis les relations amoureuses sont arrivées. J'ai ressenti un cadre bizarre, pas pour moi. Cette espèce de pull qui te gratte et qui te démange. Celui où tout le monde te dit « mais ça te va super bien !» Ces relations qui te marquent au plus profond de ta chair. Pourquoi j'ai embrassé ce mec alors que je n'en avais pas tellement envie? Pourquoi j'ai dit oui alors que mon corps me disait non? J'étais à l'ouest, aveuglée par mon corps et par lui. Et puis récemment, j'ai compris. Ce n'était pas lui le problème, mais tout simplement le déclic.
Depuis petite, j'attends sagement d'être aussi grande que maman. Elle qui m'a montré comment faire. Elle qui m'appelle la fée. J'écoute bien, je sais me taire. Chagrin caché sous les paupières. Ne jamais faire la tête. Ne jamais faire la tête. Depuis petite, me tenir droite. Baguette magique, lèvres écarlates. Je suis docile et sans un bruit. Battement de cils, j'obéis.
Et merci Diane pour ta chronique. Il est 19h57. C'est donc la fin de cette matinale de 19h. Mais bien sûr, elle va revenir demain. Je remercie nos invités Julien Chavanne et Combo. À l'interview, c'était Marine et Sabrina. Je remercie également Patrick, Francesca et Diane pour leurs chroniques respectives. À la réalisation, je remercie Renaud et David. Et puis, il y a bien sûr Diane à la coordination de l'émission. Jeanne à la coordination de l'émission. Je l'aurais confondu toute la journée. Et j'embrasse Aude, l'autre coordinatrice qui est en congé en ce moment. C'était Hugo à la matinale et je vous souhaite une bonne semaine sur Radio Campus Paris.